Le corps d'une femme âgée est recueilli dans les eaux troubles d'un étang en Alabama. Quelques indices épars sont tout ce dont disposent les policiers pour résoudre cette enquête. Au Texas, le corps d'une femme emporté lors d'une crue subite est retrouvé en aval d'une rivière. Les experts parviendront-ils à établir qu'il y a eu meurtre? Une femme est tuée lors d'un accident d'auto au Wisconsin. Les détectives devront tenter de démontrer que cette mort n'était pas un simple accident, malgré des indices incertains. Autrefois, les meurtriers se servaient de l'eau pour faire disparaître les indices qui les reliaient à leur crime. Mais aujourd'hui, ce n'est plus guère possible, car les experts ont appris à clarifier les eaux les plus troubles. Grand Bay, en Alabama, le 21 mai 1994. Deux adolescents à bord d'une embarcation sur l'étang de Blue Hole aperçoivent quelque chose à la surface de l'eau. En s'approchant, ils constatent qu'il s'agit d'un corps humain. Ils quittent les lieux en vitesse et avertissent leurs parents qui appellent la police. Les adjoints du shérif arrivèrent peu après sur la scène et repêchèrent le corps d'une femme âgée. À l'évidence, il ne s'agissait pas d'une noyade accidentelle. Un cric d'automobile était enchaîné à sa taille et ses deux mains avaient été coupées. Les enquêteurs analysèrent les lieux. Pendant ce temps, au poste de police, d'autres agents passaient en revue les dossiers des personnes disparues. Un seul d'entre eux correspondait à la description de la victime. Irma Williams, 85 ans, avait été portée disparue la veille à Moss Point, au Mississippi. Les répartiteurs du poste de police appelèrent le détective John Gaffney, qui enquêtait sur cette disparition.
Ils m'ont avisé qu'au bureau du shérif de Mobile County, on avait découvert un corps à Grand Bay, dans l'Alabama, juste à côté de notre territoire. Ils croyaient qu'il s'agissait peut-être de la personne disparue.
Des détectives de la police de Moss Point County furent dépêchés sur les lieux. En entendant la description détaillée de la victime, ils étaient d'avis qu'il s'agissait bien du corps d'Irma Williams. Le cas de cette personne disparue devenait donc un cas d'homicide. Les enquêteurs entamèrent leurs recherches aux alentours de la scène du crime pour découvrir des indices sur le meurtrier. Une grosse quantité de détritus et de débris s'était accumulée près de l'étang. Il serait difficile d'y trouver des indices. En examinant le sol au bord de l'étang, les détectives découvrirent des traces de pneus fraîches dans le sable. Ils en firent des moulages en espérant qu'elles avaient été causées par le véhicule du tueur. Ils poursuivirent leurs recherches. Il y avait un mégot de cigarette au bout aplati caché dans les broussailles. Contrairement aux autres détritus, il semblait plutôt récent. Les experts le recueillirent et l'envoyèrent au laboratoire pour le faire analyser. Les policiers étaient convaincus que la victime était Irma Williams, mais ils devaient tout de même en faire la preuve formelle. Ils retracèrent des membres de sa famille, James et Sharon Williams. James confirma que le corps était celui de sa grand-mère, Irma Williams. Sa femme et lui étaient très proches de la vieille dame. Elle était pleine de vie et aimait sa famille. Son mari était mort récemment, mais l'héritage qu'il lui avait laissé lui permettait de subvenir à ses besoins. Le père de James, Henderson Williams, était quant à lui en froid avec sa mère, Irma. Sharon ajouta que Henderson n'avait pas semblé le moindrement troublé lorsqu'elle lui avait annoncé que sa mère était introuvable. Sharon s'était rendue chez son beau-père la veille vers 23 heures et l'avait trouvé en train de brûler des déchets dans sa cour. Lorsqu'elle lui avait dit que sa mère avait disparu, Henderson avait paru distrait et peu concerné. Il était visiblement plus intéressé par le feu qu'il entretenait. En dépit de l'indifférence manifeste de Henderson, Sharon et James ne pouvaient s'imaginer qu'il puisse être impliqué dans le meurtre de sa propre mère. L'autopsie d'Irma Williams fut pratiquée par Upshaw Downs, le médecin légiste en chef de l'État de l'Alabama. La cause de la mort, un traumatisme sévère à la nuque, infligé par un objet contondant. Irma Williams était morte bien avant d'avoir été abandonnée dans les temps. Pour Upshaw Downs, la façon dont les mains avaient été sectionnées était également révélatrice.
L'amputation était très nette. Visiblement, elle avait été pratiquée avec un objet acéré comme un couteau ou un rasoir. Il n'y avait pas eu d'hémorragie ou de saignement dans les tissus. Cela m'indiquait que la blessure avait été faite post-mortem, que le meurtrier avait tenté de camoufler l'identité de la victime.
Le fait que le meurtrier se soit donné autant de mal pour cacher l'identité de la victime pouvait signifier qu'il était un de ses proches. Les policiers se rendirent à la résidence d'Irma pour tenter de trouver des réponses. Sur une des sections du linoléum de sa cuisine, il y avait des taches rougeâtres qui ressemblaient à du sang. Un sac de plastique découvert sous l'évier de la cuisine semblait également taché de sang. À n'en pas douter, il s'agissait là de la scène du crime. Sur la table, les policiers remarquèrent un cendrier rempli de mégots de cigarettes. Leur bout était aplati, exactement comme celui qu'on avait découvert près de l'étang.
J'ai vu qu'il y avait un cendrier rempli de mégots, dont l'embout avait été mordillé de façon caractéristique. J'ai interrogé la famille au sujet de ces mégots et on m'a répondu que c'était ceux d'Henderson, qu'il avait une façon particulière de les mordiller.
Il fallait maintenant interroger Henderson Williams, le fils d'Irma, sans plus tarder. Ce dernier n'était pas chez lui. Au moment où les policiers se préparaient à quitter l'endroit, ils remarquèrent une femme sortant d'une roulotte sur la propriété de Henderson. Elle s'appelait Brenda Rowell. Elle avait loué la roulotte à Henderson Williams. Henderson et elle étaient des amis proches. Elle ne savait cependant pas qu'Irma avait été assassinée. Les détectives eurent l'impression que cette nouvelle la mettait mal à l'aise. Ils lui demandèrent de les accompagner au poste de police de Mobile County pour répondre à d'autres questions. On lui demanda si elle avait remarqué quoi que ce soit d'anormal sur la propriété récemment. Elle avait vu Henderson laver sa voiture la veille. Il l'avait méticuleusement nettoyée à l'extérieur comme à l'intérieur, notamment le coffre. Brenda avait trouvé bizarre qu'il soit soudainement si préoccupé par l'apparence de sa vieille voiture. Les détectives lui montrèrent une photo du creek retrouvé avec le corps d'Irma. Brenda reconnut avec surprise son propre crick. Elle l'avait prêté à Anderson récemment et il ne le lui avait pas encore rendu. Les détectives l'interrogèrent ensuite sur la relation entre Anderson et sa mère. Depuis la mort du mari d'Irma, ils se disputaient souvent, sa mère et lui, au sujet de l'héritage. Irma trouvait son fils pingre et paresseux. Elle avait décidé de le rayer de son propre testament et ne lui avait pas permis de disposer de l'argent que son mari lui avait laissé. Anderson était devenu furieux. Brenda admit que, quelques semaines plus tôt, elle s'était disputée avec lui. Il désirait qu'elle signe le nom d'Irma sur des chèques qu'il avait volés à sa mère. Brenda avait hésité, mais Anderson avait menacé de l'évincer si elle refusait. Elle n'avait pas le choix. Elle avait imité la signature d'Irma sur les chèques. Pour corroborer la déposition de Brenda Rowell, ils rencontrèrent la directrice de la banque d'Irma. Elle confirma les déclarations de Brenda. Peu de temps avant sa mort, Irma avait même déposé une plainte contre son fils pour avoir tenté d'encaisser des faux chèques. Cette information ne prouvait pas qu'il y avait eu homicide, mais elle permettrait au moins aux détectives d'obtenir un mandat de perquisition de la propriété d'Anderson. Les policiers attendirent son départ pour se rendre chez lui. Lors de l'inspection de son véhicule, les experts remarquèrent des petites taches rougeâtres sur un feu arrière et d'autres taches plus importantes sur la moquette du coffre. Des échantillons furent recueillis et envoyés au laboratoire d'État pour fin d'analyse. Les experts prirent également les empreintes des pneus du véhicule pour les comparer à celles recueillies près de l'étang. Au cours de leurs recherches, les détectives remarquèrent également les cendres du feu dont leur avait parlé Sharon Williams. En fouillant à travers les débris, ils découvrirent plusieurs petits fragments d'eau. Comme les mains de la victime avaient été sectionnées et n'avaient jamais été retrouvées, il était possible que ces fragments soient reliés à l'affaire. Tous les indices pointaient vers Anderson Williams, mais il fallait le relier formellement au meurtre, sinon il échapperait à la justice. Des policiers de l'Alabama et du Mississippi tentaient de résoudre le meurtre d'Irma Williams, 85 ans, dont le corps avait été découvert dans un étang de la région. Les preuves indirectes pointaient vers son fils, Anderson Williams, mais les détectives ne disposaient pas encore de preuves formelles de son implication. Les objets recueillis lors de la fouille de la propriété d'Anderson furent envoyés au service de criminalistique de l'Alabama. La sérologue Elaine Scott analysa les taches de la moquette du coffre de la voiture de Anderson. Elle versa une substance chimique qui vire au bleu au contact du sang humain. Lors de l'analyse préliminaire, elle détermina que les taches étaient bien du sang humain. Elle répéta le même procédé sur les échantillons recueillis dans la cuisine de la victime. Ces derniers étaient également d'origine humaine. Les analystes devaient maintenant tenter de déterminer de qui provenait ce sang. On effectua des analyses d'ADN sur tous les échantillons. Après avoir extrait et isolé les caractéristiques génétiques de chacun, les experts purent déterminer que le sang dans la cuisine de la victime et celui dans la voiture d'Anderson étaient identiques. Lorsque ces résultats furent comparés à l'échantillon d'ADN prélevé lors de l'autopsie d'Irma, les résultats étaient indiscutables.
The bloodstains in this case Dans cette enquête, les taches démontraient que la victime avait perdu du sang dans sa maison et également dans la voiture.
Ces preuves étaient très incriminantes, mais avant de passer aux conclusions, il restait encore au détective à prouver que Anderson Williams s'était physiquement trouvé sur la scène du crime. Un seul indice n'avait pas été analysé. Il s'agissait du mégot de cigarette découvert près de l'étang. Les traces de salive qui s'y trouvaient étaient microscopiques, mais elles contenaient suffisamment d'ADN pour être soumises à une analyse. Elaine Scott compara ensuite ses résultats à ceux de mégots provenant de Henderson.
La salive nous a fourni un profil d'ADN qui correspondait à celui de Williams. Cela indiquait qu'il avait fumé cette cigarette sur la scène du crime.
Cette information permit à la police d'arrêter Henderson pour le meurtre de sa mère. Lors de sa détention provisoire, Henderson maintint qu'il était innocent et déclara qu'il n'était pas allé à cet étang depuis très longtemps. Mais toutes les preuves indiquaient le contraire. Les experts avaient comparé les empreintes de pneus de la scène du crime à celles des pneus de la voiture d'Anderson et prouvé qu'elles étaient identiques. La police croit qu'Anderson Williams est devenu fou de rage lorsqu'il a appris que sa mère lui refusait l'héritage de son père. Il est allé chez elle et l'a battue à mort. Il lui a ensuite amputé les mains en espérant que la police serait incapable de l'identifier. Puis, il s'est débarrassé de son corps dans les temps. En avril 1996, Anderson Williams comparut devant les tribunaux pour le meurtre de sa mère, Irma Williams. Il fut jugé coupable et condamné à la prison à vie. En Alabama, les policiers savaient dès le début qu'ils avaient affaire à un homicide. Mais au Texas, des enquêteurs devraient d'abord déterminer si la mort d'une femme était accidentelle ou criminelle pour poursuivre leur enquête. Dans cette histoire, certains noms ont été changés. Fort Worth, au Texas, 3 mai 1987. Francis et Jesus de la Rosa se préparaient à passer une soirée tranquille dans leur maison de banlieue lorsqu'ils entendirent des cris à l'extérieur. Un homme trempé jusqu'aux os, l'air hagard, trébucha en entrant chez eux. Il leur demanda d'appeler le service d'urgence. Sa voiture avait été emportée lors d'une crue subite et sa petite amie avait disparu. L'appel fut transmis à l'équipe de sauvetage du service de police de Fort Worth. Pour eux, ces urgences étaient par trop familières. Des pluies torrentielles s'étaient abattues sur le secteur de Fort Worth depuis un mois et détruisaient tout sur leur passage. L'équipe de secours effectua des recherches près du pont où la voiture avait été emportée. Des plongeurs explorèrent le fond de la crique à la recherche de la femme ou de son véhicule. Après plusieurs heures de recherches intensives, ils n'avaient toujours rien trouvé. Pendant les recherches, la police interrogea Domingo Turo, un immigrant cubain de 40 ans qui parlait difficilement l'anglais. Turo déclara qu'il avait tenté de conduire sur la route malgré l'eau qui l'obstruait. Le détective Mike Garvin travaillait sur cette enquête.
Il ne s'était pas rendu compte de la force du courant. Il a essayé de reculer, mais il était trop tard. Le courant l'entraînait vers la crique. C'est alors que la victime et lui sont parvenus à sortir du véhicule.
Turo déclara à la police qu'il avait saisi sa petite amie, Janice Walters, 20 ans, pendant que la voiture se remplissait d'eau et était emportée par le courant. Mais le courant était trop puissant et elle lui avait échappé. Lorsque la crue commença à s'apaiser quelques heures plus tard, les sauveteurs retrouvèrent la voiture de Touro. Elle avait été transportée sur une distance de 2 km avant d'échouer sur la rive. Les policiers récupérèrent le véhicule, mais il n'y avait aucune trace de Janice Walters. Les recherches se poursuivirent le lendemain. Vers midi, les sauveteurs trouvèrent le corps d'une femme dont la description correspondait à celle de Janice. Le corps inanimé était nu, mais il y avait une chaînette autour de son cou. La victime était à 2,5 km de l'endroit où le véhicule avait été emporté par le courant. Les autorités communiquèrent avec Touro et la sœur de Janice, Kelly Hill, et leur demandèrent d'identifier son corps. Kelly confirma qu'il s'agissait bien de sa sœur. Les détectives remarquèrent qu'elle semblait froide et distante à l'égard de Domingo Touro. Au cours de sa déposition, plus tard le même jour, Kelly déclara que tous les membres de sa famille désapprouvaient la relation de Janice avec Touro. Le corps de la jeune femme fut transporté à la morgue de Tarrant County pour y être autopsié. Le médecin légiste Nizam Pirani fut immédiatement surpris par l'état du corps.
Une des choses étranges que j'ai remarquées lors de l'autopsie, c'est que le corps était nu. On nous avait dit qu'elle portait un chemisier et des jeans. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu de cas semblable où le corps a été complètement déshabillé.
La chaînette de la victime était quant à elle intacte, en dépit du fait qu'elle avait des blessures autour du cou. Nizam Pirwani ne remarqua pas non plus les signes habituellement associés à un décès par noyade.
Lorsqu'un individu se noie, on remarque de l'écume teintée de sang sortir du nez et de la bouche. Elle est également présente dans la trachée et les bronchioles. Cette écume est causée par le mélange d'eau et d'air inhalé par la personne qui se noie. Dans ce cas-ci, nous n'en avons pas retrouvé.
Cela signifiait qu'il n'y avait pas eu d'eau dans les poumons de la victime. Janice Walters n'était donc pas morte noyée. Pendant que le docteur Nizam Pirwani tentait de donner un sens à toutes ces observations, il examina les blessures du cou de la victime. Il y avait des égratignures d'ongles, comme si la victime avait tenté d'empêcher quelqu'un de l'étrangler. Lors de l'examen interne de la victime, Pirwani remarqua que la jeune femme était enceinte depuis peu. Et ce n'était pas tout. Il y avait eu des hémorragies importantes dans les muscles autour de son cou. Pour Nizam Pirwani, une seule conclusion était possible.
Nous n'avons pas observé d'eau dans les poumons, ni d'écume ou de traces de sang dans la trachée et les bronches. Cette absence de symptômes, doublée des blessures remarquées autour du cou, indiquait qu'elle avait été étranglée manuellement.
L'examen post-mortem de routine du médecin légiste avait révélé un homicide. Après avoir examiné le rapport d'autopsie, le détective Mike Garvin décida de soumettre le petit ami de Janice, Domingo Touro, à un interrogatoire. Pour éviter tout quiproquo à cause de la langue, il engagea un interprète. « Turo admit que sa relation avec Janice était difficile depuis peu. Mais le soir de sa mort, ils s'étaient réconciliés et désiraient recommencer à zéro. Il rentrait du restaurant peu après 21h. La voiture traversait le pont lorsque la crue l'avait entraîné dans la crique. Turo avait tenté d'empêcher le véhicule d'être emporté par le courant, mais lorsqu'il avait vu que l'auto se remplissait d'eau, il avait paniqué. Il disait qu'il avait peut-être saisi Janice par le cou pour l'empêcher de se noyer. Le courant avait été plus fort que lui et elle lui avait échappé. Si Turo avait saisi Janice par le cou, comment expliquer que la chaînette était encore intacte? Le rapport d'autopsie de Pirwani et les déclarations contradictoires de Turo laissaient présumer qu'il était peut-être responsable de la mort de Janice Walters. Mais jusqu'à présent, les enquêteurs ne disposaient pas de preuves formelles. Des détectives de Fort Worth, au Texas, avaient de bonnes raisons de croire que la mort de Janice Walters était un homicide. Son petit ami, Domingo Turo, était le principal suspect. Malheureusement, les policiers ne disposaient pas de mobile du crime et avaient peu d'indices pour poursuivre leur enquête. Le détective Mike Garvin examina la déposition de la sœur de Janice, Kelly Hill. Cette dernière avait déclaré que Janice était une jeune femme attachante, enjouée et qui était très proche de sa famille. Elle avait accueilli avec bonheur la nouvelle de sa grossesse. Mais Turo, le père de l'enfant, était devenu violent. Il refusait d'assumer ses nouvelles responsabilités. Janice avait dès lors décidé de le quitter. Elle était retournée vivre chez ses parents. Selon Kelly, Turo avait refusé de la laisser partir. Quelques jours avant sa mort, il avait appelé à la maison et Janice et lui avaient eu une violente dispute. Kelly écoutait la conversation sur un autre appareil téléphonique. Turo avait menacé Janice de la tuer si elle le quittait. Les policiers étaient convaincus que Turo avait mis ses menaces à exécution. Ils examinèrent à nouveau la déposition du suspect pour tenter d'y trouver un indice qui leur aurait échappé. Ils eurent un coup de chance. Turo avait déclaré que Janice et lui rentraient du restaurant lorsqu'ils s'étaient retrouvés piégés par la crue. En examinant la carte géographique des lieux, les détectives remarquèrent que le couple roulait dans la mauvaise direction, dans une impasse. Paul Dixon, l'adjoint du procureur de Tarrant County, nous explique l'importance de ce détail.
Les gens du secteur se servaient de cette impasse pour aller y jeter des détritus illégalement, de vieux matelas, de vieux pneus, des déchets, etc. Il est même déjà arrivé à quelques reprises aux policiers d'y trouver des cadavres.
Turo se préparait donc vraisemblablement à abandonner le corps de Janice. Les détectives disposaient maintenant d'un doute raisonnable et pouvaient procéder à l'arrestation de Domingo Turo sur présomption du meurtre de Janice Walters. Les policiers croient qu'au moment où Janice est retournée chez Turo pour y prendre ses affaires, ce dernier a perdu la tête. Il était possessif et n'acceptait pas d'être rejeté par la jeune femme. Après l'avoir tué, il l'a déshabillé et a tenté de cacher son corps et les traces de son crime.
Il roulait sur le pont dans la tempête et la crue, et la nature l'a empêché de mener son plan à terme.
Domingo Turo comparut devant les tribunaux et fut jugé coupable du meurtre de Janice Walter. Il fut condamné à 45 ans de prison.
La criminalistique a été primordiale dans cette affaire. Sans Nizam Pirwani et son autopsie, nous n'aurions pas pu prouver qu'il y avait eu strangulation. Même si la famille de la victime soupçonnait Touro de l'avoir tué, nous n'aurions jamais pu en faire la preuve.
Au Texas, les sciences judiciaires ont permis à la police de faire condamner un meurtrier qui avait profité d'une crue subite pour cacher son crime. Au Wisconsin, un autre médecin légiste devrait déterminer si la mort était accidentelle ou s'il s'agissait plutôt d'un meurtre déguisé. Le 22 juin 1990, dans la ville de Berlin, au Wisconsin, l'employé d'une entreprise d'explosifs s'apprêtait à fermer boutique lorsqu'il entendit quelqu'un appeler à l'aide. Un homme couvert de boue déclara qu'il venait d'avoir un accident de voiture et que son ex-femme avait perdu connaissance. Après avoir avisé le service d'urgence, les deux hommes retournaient rapidement sur les lieux de l'accident. En l'espace de quelques minutes, des agents du bureau du shérif de Lake County et des ambulanciers de Berlin arrivèrent sur les lieux. Dans un fossé rempli d'eau, ils trouvèrent une voiture blanche appuyée contre un talus boueux. Le corps d'une femme, le visage sous l'eau, fut repêché. Les ambulanciers s'empressèrent de lui administrer les premiers soins, mais s'aperçurent rapidement qu'elle ne respirait plus. Ils tentèrent de la réanimer en lui donnant la respiration artificielle. Leurs tentatives portèrent fruit. La victime recommença à respirer d'elle-même. Elle fut immédiatement transportée à l'hôpital. Après le départ de l'ambulance, les policiers prirent la déposition de l'autre victime de l'accident. L'homme s'appelait Daniel Egan et la femme était Darlene, son ex-conjointe. Il déclara qu'elle avait donné un coup de volant pour tenter d'éviter un cerf et que la voiture avait plongé dans le fossé. Egan s'était alors empressé de chercher de l'aide, mais quand il était revenu, il avait trouvé Darlene la tête sous l'eau. Darlene fut conduite à la salle d'urgence du Memorial Hospital de Berlin, où les médecins tentèrent de la sauver. Un agent du service de police de Green Lake rencontra les membres de la famille de Darlene à l'hôpital. Pendant qu'il leur expliquait comment s'était produit l'accident, le médecin leur annonça que Darlene n'avait pas survécu à ses blessures. Ses proches furent accablés par la nouvelle. De plus, il ne s'expliquait pas pourquoi Darlene était en compagnie de son ex-mari, comme nous le raconte l'agent Ron Click.
Lorsque je leur ai appris que Dan Egan était le passager du véhicule au moment de l'accident, ils m'ont dit qu'il était peu vraisemblable qu'elle ait permis à son ex-mari de monter dans sa voiture, tellement la relation entre eux était orageuse.
L'agent communiqua avec les détectives sur la scène de l'accident et leur transmit cette information. Les agents de patrouille de l'État du Wisconsin tentèrent de reconstituer l'accident. Ils mesurèrent l'angle et les dimensions des traces des pneus sur la route et en conclurent que la voiture roulait à environ 80 km à l'heure, soit un peu moins que la limite autorisée. Mais les traces sur l'asphalte n'étaient pas le résultat d'un freinage. Elles avaient plutôt été causées par un virage à haute vitesse. Selon l'agent Dennis McConnell, c'était plutôt étrange.
Dans 99% des cas, lorsqu'un automobiliste fait soudainement face à un danger, comme l'arrivée d'un cerf sur la route, il met le pied sur le frein. Mais dans ce cas-ci, rien n'indiquait que cela s'était produit ainsi.
Pour les détectives, c'était suffisant pour exiger un examen judiciaire du véhicule. il fut remorqué à la fourrière de la police. De son côté, le médecin légiste de l'hôpital pratiqua l'autopsie de Darlene Egan. À en juger par la quantité d'eau dans ses poumons, elle était morte par noyade. Un détail était cependant troublant. Il y avait une grande quantité de boue dans ses yeux, son nez et ses oreilles. Le coroner ordonna que le corps de Darlene Egan soit soumis à une seconde autopsie. Le soir même, des experts examinèrent sa voiture. Ils remarquèrent que la ceinture de sécurité de la conductrice passait par-dessus le volant et était toujours attachée. Il y avait également beaucoup de boue à l'avant du véhicule. Cela n'était pas étrange en tant que tel, mais un examen attentif du pare-choc leur permit de remarquer un cheveu dans la boue. Le cheveu fut envoyé au laboratoire pour y être analysé. Des spécialistes allaient déterminer plus tard que ce cheveu n'appartenait pas à Darlene Egan. Le lendemain, les enquêteurs interrogèrent Dan Egan à nouveau. Ils lui demandèrent un compte-rendu détaillé des événements. Dan déclara qu'au moment de l'accident, il se rendait chez sa mère avec Darlene pour y chercher leurs deux enfants. Tout à coup, son ex-femme avait crié qu'elle avait aperçu un cerf et avait braqué son volant vers la droite. La seule chose dont il se rappelait par la suite, c'était la voiture dans le fossé. Darlene ne parlait pas et gisait contre la portière du conducteur. Egan était ensuite sorti rapidement du véhicule et s'était rendu à l'entreprise d'explosifs pour obtenir de l'aide. Il était retourné sur la scène de l'accident quelques minutes plus tard. Il ne comprenait pas comment Darlene s'était retrouvée la figure sous l'eau. Il croyait qu'elle était peut-être parvenue à sortir du véhicule, puis qu'elle avait perdu connaissance à nouveau. Pour l'agent Rick Lowell du service d'enquête criminelle du Wisconsin, la version d'Egan n'était pas conforme aux faits.
Nous avons vite constaté qu'il n'avait pas eu assez de temps pour sortir du véhicule, courir et chercher de l'aide, et qu'elle tombe dans l'eau et se noie avant son retour sur les lieux. Ça ne fonctionnait pas. Quelque chose clochait. Nous avons donc décidé de réexaminer l'affaire plus attentivement.
Les circonstances entourant la mort tragique de Darlene Egan soulevaient trop de questions. Le médecin légiste fournirait les réponses. Des policiers du Wisconsin enquêtaient sur la mort par noyade de Darlene Egan quand son véhicule avait plongé dans un fossé. Ils avaient de bonnes raisons de croire qu'un meurtre avait été commis. De plus, la déposition de Dan Egan, son ex-mari, n'était pas crédible. Pour trouver des réponses, les détectives firent appel à un médecin légiste pour qu'une seconde autopsie soit pratiquée. C'est à Robert Huntington, pathologiste judiciaire de l'État du Wisconsin, que fut confiée cette tâche.
Quand on pratique une autopsie, on doit pouvoir répondre à trois questions. On veut d'abord déterminer la cause de la mort, et puis éliminer d'autres causes, et enfin, vérifier si le corps peut nous révéler comment la mort est survenue.
Huntington parvint au même diagnostic que le premier médecin légiste. La mort avait été causée par la noyade. Mais certaines blessures remarquées lors de l'examen n'étaient pas causées par un accident de voiture. Elles semblaient être reliées à autre chose.
Les corps qui nous sont envoyés suite à un accident de la route sont très abîmés. Ce n'était pas son cas. Ce qu'il y avait de plus troublant, c'était les blessures qu'elle avait au visage. Un accident peut causer des égratignures, mais celle-ci semblait avoir été faite par des ongles. C'était plutôt inquiétant.
La présence d'égratignures sur le visage de la victime laissait présumer que la noyade n'avait pas été causée par l'accident de voiture. Lors de son analyse finale, Robert Huntington en conclut que Darlene Egan avait été tuée.
Supposons que quelqu'un lui ait maintenu le visage sous l'eau. Cela expliquait pourquoi elle avait ces marques d'ongles.
La conclusion de Huntington donna au détective un aperçu de la façon dont Darlene Egan était morte. Mais pour prouver qu'un homicide avait été commis, il devait trouver le mobile du crime. Ils se tournèrent vers la famille de la victime pour trouver des réponses. La sœur de Darlene, Denise Krause, déclara à la police que Darlene avait divorcé de Dan Egan en 1988, après 5 ans de mariage. Dan était violent envers elle et Darlene vivait dans une terreur permanente. Elle avait décidé de reprendre sa vie en main. Peu avant sa mort, elle avait trouvé un emploi comme téléphoniste au service de police. C'était une mère dévouée pour ses 2 filles. Elle fréquentait également un policier depuis peu. Denise ajouta que Darlene et Dan se livraient une bataille juridique pour la garde de leurs enfants. Le mobile du meurtre prenait forme. Les policiers téléphonèrent à l'avocate de Darlene. Cette dernière leur apprit que Darlene avait obtenu la garde principale des enfants. Cette décision avait été rendue la veille de sa mort. Elle avait même rencontré le couple pour discuter des modalités. Lorsque Dan avait appris la décision de la cour, il était devenu furieux. Il n'acceptait pas de devoir payer une pension alimentaire. Il s'était juré de garder ses enfants, peu importe les conséquences. Les détectives interrogèrent à nouveau Dan Egan, mais cette fois-ci, ils lui annoncèrent qu'il était le principal suspect dans le meurtre de son ex-femme. Les policiers savaient que Darlene prenait grand soin d'éviter de se trouver seule en compagnie de Dan. Ils lui demandèrent d'expliquer comment il s'était retrouvé dans sa voiture. Dan déclara que le jour de l'accident, Darlene était venue chez lui prendre les enfants. Mais c'était la mère de Dan qui s'occupait d'eux pour la journée et elle n'avait pas de voiture pour venir les reconduire chez lui. Dan était dans la même situation et ne pouvait pas aller les chercher non plus. Il reconnut que Darlene était en colère à son arrivée lorsqu'elle avait appris qu'elle devait aller chercher ses enfants chez sa belle-mère. Les deux femmes ne s'entendaient pas bien. Selon Dan, c'est elle qui lui avait demandé de l'accompagner. C'est durant ce déplacement vers la maison de sa mère que l'accident avait eu lieu. Avant son départ, Egan accepta de donner un échantillon de ses cheveux à la police. L'échantillon fut envoyé au laboratoire du Wisconsin pour y être examiné. Il fut ensuite comparé aux cheveux qui avaient été trouvés sur le pare-choc de la voiture de Darlene. Les 2 cheveux étaient absolument identiques. Pour les détectives, il n'y avait qu'une seule possibilité. Et cette possibilité expliquait la grande quantité de boue au visage de la victime observée lors de l'autopsie.
Il est possible que Darlene ait tiré les cheveux de son mari qui cherchait à lui mettre la tête sous l'eau. Poussée sous l'auto, elle s'est peut-être agrippée au châssis du véhicule pour se dégager de cette situation. C'est alors qu'au cours de ses manœuvres, un de ses cheveux dans sa main s'est collé à la boue sur l'auto.
En luttant pour sa vie, Darlene avait laissé derrière elle la preuve de son homicide. Les enquêteurs disposaient enfin des éléments qui leur permettraient d'arrêter Dan Egan pour le meurtre de son ex-femme. Les policiers croient que le couple roulait en voiture lorsque Dan a saisi le volant et braqué violemment vers la droite, provoquant ainsi l'accident. La ceinture de sécurité de Darlene était toujours bouclée. Malgré cela, Dan a arraché son ex-femme de l'auto. En se débattant, Darlene a agrippé Dan par les cheveux. Ce dernier a tout de même eu le dessus sur elle. Il lui a maintenu la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie. Pour le meurtre au premier degré de son ex-femme, il fut condamné à la prison à vie. Par le passé, les meurtriers arrivaient sans peine à être lavés de tout soupçon, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La science permet à la justice de les faire condamner pour leurs actes, même quand les victimes gisent dans les eaux les plus troubles.